France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Merveilleuse licorne, prendre l'histoire par la corne. La licorne nous est bien connue, presque familiale. Elle ressemble à un cheval blanc, évidemment, avec une corne longue, pointue, torsadée sur le front. Mais savez-vous qu'elle a pu prendre des formes très différentes, allant du sanglier au chevreau, à l'âne, à la vache, parfois pure, parfois agressive. Elle joue un rôle actif dans nos imaginaires, car la licorne n'est pas là pour faire tapisserie.
Moi aussi, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux.
Leur corps est blanc, leur tête rouge foncé et leurs yeux bleus sombres.
Je n'en avais jamais vu de vivant.
Hagrid, qu'est-ce que c'est?
Vous voyez? Ça, c'est du sang de licorne.
La licorne est une bête redoutable. Au milieu de sa tête se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante. Mais elle est si résistante et si acérée qu'elle transperce sans peine tout ce qu'elle frappe.
Oh, voici l'animal qui n'existe pas. Certes, il n'existait pas, mais parce qu'il l'aimait, un animal pur naquit.
Et voici des licornes. Enfin, vous, voici vous, Béatrice de Chancel Bordelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice générale du patrimoine au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge à Paris. Vous êtes commissaire de l'exposition Licorne, qui se tient donc au musée de Cluny, avec ce catalogue sublime Licorne, point d'exclamation, parce qu'il fallait bien un point d'exclamation avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Nathalie Coble, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature du Moyen-Âge à l'École normale supérieure de Paris, et vous avez accompagné ce texte venu du Moyen-Âge, La Dame à la Licorne et le Beau Chevalier. C'est un texte qui vient d'où, ça? C'était un texte, un tantinet oublié?
Absolument, c'est un roman en vers avec des insertions lyriques du XIVe siècle, voilà, qui a été écrit pour et offert à Blanche de Navarre, probablement pour son mariage en haut lieu, puisque c'était la reine de France.
Oui, donc en très haut lieu,
voilà.
Avec ici cette édition que vous accompagnez. Je pense que nous pourrions commencer par la corne de cette licorne, parce qu'elle nous fascine. À quoi ressemble-t-elle? Alors là, bien sûr, je pense que pour toute l'émission, il va y avoir des regards très différents, sans cesse, et des nuances. Si je vous demande, dans le stéréotype occidental, la corne de la licorne, comment s'est-elle figée? On peut commencer avec vous, Béatrice de Chancel.
Alors, la corne de licorne, dans les trésors d'église, c'est la dent du narval, mais c'est une corne ivoirine, blanche, torsadée, pour laquelle les auteurs donnent des longueurs assez variables, un pied, deux pieds, donc on arrive à des dents de plus de 2 mètres. Et par exemple, celle que nous avons au musée de Cluny, qui est supposée provenir de l'abbaye de Saint-Denis et dont les auteurs parlent depuis le Moyen-Âge, elle mesure plus de 2 mètres, effectivement.
Cette corne, c'est celle des collections du musée de Cluny à Paris, donc une énorme corne de licorne. Et dans l'exposition, il y a d'autres cornes de licorne. Je dis ça parce que ce ne sont pas des cornes de narval à ce moment-là, ce sont vraiment des cornes de licorne. Ça veut dire qu'en ce moment, donc à Paris, il y a concentration de cornes de licorne.
Ah, il y a afflux de licornes au musée de Cluny et effectivement, il y a une autre corne de licorne qui est dans l'exposition et des objets également en morceaux de cornes de licorne, puisqu'au Moyen-Âge, on les tronçonnait aussi. Et justement, sur celle qui est dans l'exposition, il y a une inscription que celui qui coupe un morceau soit maudit.
Ah oui, parce que sinon, il n'y en a plus après, au bout d'un moment. Nathalie Coble.
Est-ce que je peux vous rajouter quelque chose?
Allez-y.
Je ne sais pas si on voit cela à l'exposition, mais en tout cas, dans la magnifique anthologie, on découvre que sur la corne de la licorne, d'après Hildegard de Bingen, il y a une sorte de miroir qui est constitué d'un verre transparent dans lequel on peut se contempler si on a de la chance.
Ah oui,
c'est très étrange, ça.
Elle est formidable, cette corne de licorne. Non, mais j'allais vous poser la question. Une licorne sans sa corne, c'est un cheval. On peut le dire comme ça ou ça ne suffit pas?
Non, pas tout à fait. Parce que c'est un animal hybride. Et donc, de toute façon, elle est constituée, comme beaucoup d'hybrides imaginaires, de quantités de parties d'autres animaux. Donc, les pattes, je vous laisse, Béatrice.
Mais aussi, dans les auteurs antiques donnent déjà des descriptions différentes, puisque Ctésias dit qu'elle ressemble à un chevreau, Pline dit qu'elle est un assemblage avec un corps de cerf, une queue de sanglier, des pieds d'éléphant. Donc, personne n'est vraiment d'accord sur l'apparence de la licorne. Et nous, surtout avec les tapisseries, la dame à la licorne, nous avons l'idée de la licorne blanche. Mais beaucoup d'auteurs disent qu'elle a la couleur du buis. Et si on regarde que ce soit les bestiaires anglais, elle va avoir diverses couleurs. Et en Italie, on a souvent des licornes brunes également au 14e, 15e, début 16e siècle. Encore.
Oui, ou mouchetées. Comme dans le manuscrit de la Dame à la licorne,
pommelée.
Ah oui, c'est ça, elle peut être à petit poids aussi. Elle peut être représentée sur des tapisseries, dans tout ce que vous pouvez présenter, et même en couverture du catalogue, nous en voyons une rouge à pois blanc. Ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Béatrice de Chancel, la licorne rouge à pois blanc, j'ai prévenu. Hein. Dès que nous allons parler de licorne, les stéréotypes d'images que nous avons vont sans cesse être remis en question. Avec une autre idée, et j'aimerais bien qu'on lui fasse un sort tout de suite, c'est penser que la licorne serait un rhinocéros, en fait, que des gens ont vu une grosse bête de la taille d'un cheval avec une corne, et c'est devenu la licorne. Dire cela, c'est un peu réducteur, étant donné que la licorne apparaît dans plein de civilisations différentes. Béatrice de Chancel, là aussi, la profondeur du temps est à prendre en compte quand on évoque la licorne, en tout cas ses origines.
Oui, alors les plus anciennes attestations de licorne sont liées à l'Inde, donc des voyageurs grecs qui sont allés en Inde. Mais on trouve aussi des licornes représentées dans la civilisation chinoise, très anciennement également. Et la pièce la plus ancienne dans l'exposition, c'est un sceau de la civilisation de Mohenjo-Daro, donc qui daterait de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais là, il est vrai qu'on peut supposer qu'il s'agit d'antilopes vues de profil avec une seule corne. Et dans l'exposition, nous avons également un étendard en bronze des Antiquités orientales qui est en fait deux bouquetins, deux ibex qui ont deux cornes, mais vues de profil, ils n'en ont plus qu'une.
Ah oui, d'un seul coup, ça devient une licorne. Il existe des rhinocéros indiens, donc effectivement, l'inspiration peut être là, mais réduire la licorne à une représentation erronée du rhinocéros, ça lui enlève tous ses attributs qui font son épaisseur à travers le temps. Vous avez cité un auteur antique qui nous conduit au 5e, 4e siècle avant notre ère, c'est Ctésias de Cnide, qui lui aussi décrit la licorne.
Il existe en Inde des ânes sauvages aussi grands que des chevaux, et même plus grands. Leur corps est blanc, leur tête rouge foncé, et leurs yeux bleus sombres. Ils ont sur le front une corne d'environ 50 cm de long. La poudre de cette corne broyée préserve des poisons. La base de cette corne, sur deux largeurs de main à partir du front, est d'un blanc pur. La partie supérieure est pointue et cramoisie. Le reste, ou partie intermédiaire, est noir. Ceux qui boivent dans ces cornes, creusées en récipient, sont préservés des convulsions et du haut mal. Les autres ânes, tant domestiques que sauvages, et tous les animaux à sabots, n'ont pas d'astragale et pas de bile dans le foie. Mais ceux-ci ont à la fois l'astragale et la bile. Cet animal est extrêmement rapide et vigoureux, si bien qu'aucune créature, cheval ou autre, ne peut le rattraper.
C'est en 1985, sur France Culture, que Lise Roy lisait cet extrait de Ctésias de Cnide. Donc là, nous sommes dans un univers qui nous projette dans l'Antiquité, avec presque une volonté de décrire la licorne. C'est cette complexité-là aussi que nous devons prendre en compte pour essayer de la définir. Animal hybride, mais hybride de quoi? Donc ici, nous avons une proposition, mais c'est ce qu'on va croiser sans cesse, Béatrice de Chancel, c'est... Toutes ces licornes peuvent prendre des formes différentes selon les contextes et selon les auteurs qui les étudient.
Oui, et même sur notre tenture de la dame à la licorne, les six licornes ne sont pas identiques. Celle du toucher est vraiment assez proche d'une petite chèvre, tandis que les autres sont peut-être plus chevalines, en particulier celle du goût. Bon, elles sont blanches, mais un peu différentes. Et il y a des questions aussi de savoir si elles ont un sabot unique comme un cheval ou le sabot fourchu comme les capridés, les chèvres. Et très souvent, les auteurs médiévaux, les artistes la représentent avec ce sabot fourchu et la barbiche de la chèvre.
Nathalie Coble, votre licorne à vous, celle de la dame à la licorne et le beau chevalier, à quoi ressemble-t-elle? Y a-t-il une description de la licorne?
Ah oui, alors ça c'est une excellente question, parce que comme elle est blanche, du nom de Blanche de Navarre, dans la première enluminure, le manuscrit en comporte plus d'une centaine, elle est blanche. Mais dans le reste du manuscrit, elle est gris pommelé, ou quasi. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que le maître d'atelier qui a commandé la représentation a bien été là pour la toute première. Et puis ensuite, les enlumineurs ont fait à leur habitude. Et leur habitude, ça n'était pas une licorne blanche, manifestement.
Donc, ah oui,
c'était une licorne gris pommelé. Donc il y a les deux dans le manuscrit. Et elle est décrite, et même on a sa genèse, puisque c'est l'emblème de la dame. D'ailleurs, c'est la première apparition du mot licorne français au féminin. Et elle l'accompagne pendant tout le roman.
D'ailleurs, le mot lui-même est complexe à manier, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons comme une évidence, la licorne.
Oui.
Or, le mot utilisé a évolué à travers le temps. Dans La Dame à la licorne et le beau chevalier, c'est systématiquement le mot licorne qui est utilisé?
Systématiquement, et systématiquement au féminin. Et c'est la première attestation en français.
Béatrice de Chancel, parce qu'il y avait d'autres mots pour décrire cet animal, cette créature fantastique avec une corne, c'est l'unicorne, mais là c'est masculin.
Oui, on dit un unicorne, et puis... il y a le fait qu'on connaît aussi, et les auteurs antiques, enfin les auteurs médiévaux eux-mêmes, par moments, citent le monocéros, donc l'unicorne en grec, et unicornis en latin.
Ah oui, le monocéros, mais c'est intéressant parce que là nous avons un masculin, avec un unicorne nous avons un masculin, et le fait que la licorne devienne féminin, ça correspond aussi à l'évolution de la représentation que l'on a pu en avoir, au sens où cette licorne, celle de la tapisserie de la dame à la licorne, aujourd'hui au musée de Cluny à Paris, celle de la dame à la licorne et le beau chevalier, comme un beau cheval blanc avec sa corne sur le front associé à une jeune fille, ce n'est pas la représentation constante de la licorne. La licorne, elle a des formes très très différentes. Elle peut être agressive même parfois.
C'est-à-dire, elle est l'envers aussi de cela. C'est-à-dire qu'elle est féroce, mais dans son histoire, elle devient douce. Elle est sauvage, elle devient domestique. Elle est nocive, elle devient une panacée. Et c'est ça aussi, hein, la force de cet animal mythique. C'est le renversement, c'est vraiment l'animal du renversement. Et donc dans sa chasse, donc je ne sais pas, j'imagine que tout le monde connaît la manière de chasser une licorne. En tout cas, quand on est médiéviste, on n'y échappe pas. Donc il faut mettre une jeune vierge dans une forêt et elle est attirée. Et ce qui s'est passé, c'est que l'animal, en fait, par contamination, si je puis dire, est devenu le symbole de la jeune fille. Donc, le symbole de la pureté de la jeune fille. D'où le renversement.
Oui, c'est ce renversement qui est passionnant d'ailleurs à voir quand nous regardons la licorne sur la longue durée, en se plongeant, comme vous le disiez, Béatrice de Chancel, sur ses premières représentations et en voyant comment elle évolue pour devenir la licorne qu'elle est aujourd'hui. Elle porte des sens différents.
Elle porte, oui, beaucoup de sens. Et dans les bestiaires médiévaux, on souligne toujours sa rapidité, quelquefois sa férocité, sa sauvagerie. C'est un animal qui vit dans les forêts, qu'on ne peut pas capturer, qui se bat contre les autres animaux, qui fuit même ses congénères. On n'a pas de troupeau de licornes. La licorne, elle est un peu toute seule.
Ah oui, oui, elle vit seule, elle vit dans la forêt et elle est dangereuse aussi parce que cette corne que nous évoquions en début d'émission peut transpercer un corps. Alors là, les représentations aussi nous éloignent beaucoup de cette pureté et de la douceur de la dame à la licorne. Dans La Dame à la licorne et le beau chevalier, elle est dangereuse, faut s'en méfier?
Non.
Non, justement, ça y est, elle est vraiment devenue
gentille.
Mais
c'est toute l'affaire de la courtoisie que de dompter. Les pulsions les plus féroces, aussi bien extérieures qu'intérieures. Donc au fond, ce qu'elle représente, c'est ça. le contrôle et la maîtrise des pulsions. C'est la courtoisie, cette licorne.
Mais quand on feuillette le catalogue licorne, lié à l'exposition, on se rend compte que parfois, avec sa corne, elle transperce au décor.
Oui, alors on raconte qu'elle transperce le corps de l'éléphant, mais le lion lui échappe en se mettant devant un arbre. La licorne fonce sur le lion et sa corne le lion l'esquive et la corne se fiche dans l'arbre. Donc il y a plusieurs auteurs, plusieurs récits médiévaux qui racontent cette histoire. Pauvre licorne.
C'est sûr que cette licorne, évidemment, intrigue, fait peur. Quand nous l'observons ici, nous la voyons de manière concrète à travers la corne. Il n'y a que ça en réalité que les gens du passé ont pu approcher de la licorne. Il n'y a pas d'autres éléments, il y a une volonté quand même de collecter des témoignages. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « oui, moi j'ai vu une vraie licorne ».
Alors oui, il y a plusieurs personnes qui ont vu des vraies licornes. Il y a en particulier un groupe de voyageurs allemands et qui ont vu une licorne près de la Terre Sainte, dans le Sinaï. Et c'est raconté par Bernard von Breidenbach et aussi par Félix Fabry qui dit « Nous avons vu une licorne au loin, nous nous sommes étonnés. Notre guide nous a dit que nous croyions que c'était un chameau, mais c'était une licorne et elle était tout à fait paisible. » Et l'autre personne qui a vu la licorne, c'est Lodovico de Vartema, donc un voyageur bolognais qui s'est rendu à la Mecque. Et à la Mecque, il a vu dans une cage deux licornes qui ressemblaient à des poulains.
Ah oui, d'accord. Bah alors c'est quoi ça? Quelle interprétation peut-on en donner? Parce qu'il ne ment pas, il a bien vu quelque chose. Il voulait tellement voir une licorne qu'il a projeté ses désirs sur ce qu'il a vu.
Alors je ne sais pas. Mais c'est étrange de voir cette description. Et ces deux voyageurs, enfin aussi bien Breidenbach que Lodovico de Vartema, à leur retour, il y a eu des imprimés illustrés. Et donc, on a des représentations de licornes, à la fois pour celle vue dans le désert du Sinaï, qui a une très longue corne. Et qui a le sabot, la patte antérieure levée, et puis les deux licornes de Lodovico de Vartema dans leur cage, avec là une corne un peu recourbée comme on la faisait dans les régions alémaniques au 15e, 16e siècle.
Quant au corps de la licorne, c'est un cheval à ce moment-là?
Celle de Lodovico de celle de Breidenbach est vraiment assez chevaline et l'autre, elle est aussi un peu, elle a des poils très longs, donc c'est un cheval à poils longs.
Un cheval à poils longs et tout le monde évidemment cherche à voir une licorne au moment d'explorer des contrées lointaines que l'on ne connaît pas encore. C'est le cas de Marco Polo.
Les habitants de Sumatra ont des unicornes aussi, qui ne sont pas plus grandes qu'un éléphant. Et elles ont le poil comme celui du buffle, et les pieds comme ceux des éléphants, et une corne au milieu du front, blanche et très grosse. Et elles ne font aucun mal avec leur corne, mais avec leur langue, car elles ont la langue chargée de grandes et longues épines. Et elles ont une tête semblable à celle du sanglier, et la portent toujours inclinée vers la terre. Elles demeurent habituellement près des lacs et des marais. C'est une bête très laide à voir. Elle ne se prend pas au sein d'une pucelle, comme nous le disons, bien au contraire.
Raphaël Laloum, dans le cours de l'histoire, qui lisait Le Devisement du Monde, c'est-à-dire le livre des merveilles de Marco Polo, écrit ici, on est à la fin du XIIIe siècle, une licorne imaginée, vue. Comment peut-on suivre la trace de la licorne? Ce n'est que par les représentations et les mentions dans les textes, mais c'est omniprésent. Ce n'est pas tout de faire un catalogue de toutes les mentions de la licorne pour comprendre qui elle est, il faut la contextualiser à chaque fois. On voit des typologies de licornes apparaître, des licornes pures, des licornes plus agressives.
Je crois que ce dont il faut se rendre compte, parce que ça n'est pas une évidence, c'est qu'elle part du discours naturaliste. La licorne, c'est d'abord un animal d'encyclopédie, donc de savoir, pas un animal imaginaire. Simplement, dans les bestiaires, on met dans les notices les animaux qu'on n'avait jamais vus, qu'on décrivait, avec les animaux familiers. Donc, les licornes telles que moi je les croise dans la littérature médiévale, ce sont des licornes transposées, si vous voulez, depuis un savoir encyclopédique pour en faire un animal qui devient une figure poétique dans la poésie courtoise à partir du XIIIe siècle, notamment chez Thibaut de Champagne, par exemple, ou romanesque, et donc un animal de fiction. Mais le point de départ, ça n'est pas la fiction. C'est le savoir. Et donc, dans la poésie, c'est vraiment la place du savoir qui vient s'introduire dans le discours du poète ou du romancier.
Oui, mais la licorne, en fait, elle vient de l'encyclopédie, elle vient aussi de ces fameuses dents de narval, et puis des représentations, puisque, par exemple, en Occident, on a, dès l'époque carolingienne, on a des licornes, que ce soit en enluminure, dans le Physiologos de Berne, ou sur des ivoires, comme la plaque du paradis terrestre qui est au musée du Louvre.
Parce que ce savoir encyclopédique, et c'est vraiment très pertinent, Nathalie Coble, ce que vous venez de nous dire, ça nous permet de comprendre aussi le rapport des gens du passé avec la licorne. Oui. Ça fait partie du bestiaire. Alors bien sûr, on n'en voit pas autant que des vaches ou que des chevaux, mais en tout cas, ça existe et on ne les met pas de côté.
Non, parce que la création, d'abord, le monde n'est pas entièrement connu. Donc, on peut toujours supposer que ce que l'on n'a pas vu existe. Simplement, on ne l'a pas vu. Et par ailleurs, les autorités livresques, aussi bien qu'iconographiques, supplaient l'inconnu. Donc, il y a ces traditions iconographiques et textuelles qui sont une manière de couvrir le savoir sur le monde étant lu comme un livre.
Est-ce que la licorne apparaît dans la Bible ?
Oui, alors ça, je laisse Béatrice.
Oui, la licorne est mentionnée dans la Bible, en tout cas dans les traductions grecques et latines qu'on en a au Moyen-Âge. Mais, alors moi, je ne suis pas du tout hébraïsante, mais apparemment, le mot qui a été traduit, c'est « réhem », qui désignerait plutôt, en hébreu, un bovidé. Mais avec l'autorité de la Bible et les diverses mentions de la licorne, que ce soit dans les psaumes, dans le livre de Job en particulier, la licorne prend une importance considérable au Moyen-Âge, puisque à la fois elle apparaît dans les auteurs antiques et elle apparaît dans la Bible. Et dans la Bible, elle est mentionnée tantôt comme en bonne part, tantôt en mauvaise part. Donc, ma corne sera exaltée comme la corne de la licorne, mais aussi sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des unicornes.
Oui,
donc, c'est vraiment... elle est tantôt un symbole déjà christique, et on le dit dès le IVe siècle, Saint Ambroise de Milan, et tantôt, elle est une incarnation de la menace dont le psalmiste cherche à être protégé par la puissance divine.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la Bible, elle est déjà, dans les psaumes, à la fois positive et négative, et c'est, je pense, ça qui lui donne le statut mythique au sens fort du terme qu'elle a eu au Moyen-Âge, et c'est en quelque sorte sa chance. Parce que l'exégèse, aussi bien biblique que les commentaires des textes antiques par les médiévaux, en fait donnent des interprétations multiples de ce renversement.
En quoi est-elle d'ailleurs un symbole christique au IVe siècle, hein, vous disiez ?
Parce qu'elle est un peu exceptionnelle et la corne unique, l'unicité divine, c'est très curieux. Les auteurs, les pères de l'Église et puis tous les médiévaux vont broder dessus. Et assez tôt, on voit apparaître aussi l'idée que la licorne, c'est vraiment le Christ qui va s'incarner dans la Vierge Marie. Et donc, la chasse à la licorne devient une image de l'annonciation et de l'incarnation, vraiment.
De la passion, puisqu'elle est chassée et tuée pendant la chasse à la licorne. Donc, en fait, cette fable devient la structure même, au sens littéral du terme, du plus grand mystère des deux plus grands mystères du christianisme, l'incarnation et la passion, et derrière la résurrection. Et donc, elle devient un symbole de toute l'histoire du christianisme, d'où le mythe.
Oui, parce que ici nous avons cette force symbolique avec l'évocation dans la Bible, avec l'association christique, avec la difficulté de chasser la licorne déjà. Qu'on la voit pas, donc c'est pas simple. Mais en plus, il faut savoir la chasser. Pour chasser le dahu, on sait comment on fait. On se met derrière, on l'appelle, il se retourne et il tombe. Pour la chasse à la licorne, c'est autre chose.
La licorne est une bête redoutable, dont le corps ressemble un peu à celui du cheval. Mais elle a le pied de l'éléphant et une queue de cerf. Et sa voix est tout à fait épouvantable. Au milieu de sa tête se trouve une corne unique, extraordinairement étincelante, et qui a bien 4 pieds de long. Mais elle est si résistante et si acérée qu'elle transperce sans peine tout ce qu'elle frappe. Et sachez que la licorne est si cruelle et si redoutable que personne ne peut l'atteindre ou la capturer à l'aide d'un piège quel qu'il soit. Il est bien possible de la tuer, mais on ne peut la capturer vivante. Cependant, les chasseurs envoient une jeune fille vierge dans un lieu que fréquente la licorne, car telle est sa nature. Elle se dirige aussitôt tout droit vers la jeune fille en abandonnant tout orgueil et elle s'endort doucement dans son sein, couchée dans les plis de ses vêtements. Et c'est de cette manière que les chasseurs parviennent à la tromper. Brunetto Latini, Livre du Trésor, 13e siècle.
Avec cette lecture ici de Catherine Laborde sur France Culture en 1998, on a l'évocation de Brunetto Latini qui donc nous donne la solution pour attraper une licorne. Nathalie Coble, c'est bien ce que vous nous avez évoqué. La jeune fille vierge attire la licorne et l'adoucit et dès lors, elle devient inoffensive.
Oui. Elle devient inoffensive, oui, elle devient inoffensive. Et dans les bestiaires, c'est comme cela qu'on l'attrape. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans la littérature profane, puisqu'elle subit un autre transfert, c'est que de ce substrat religieux, elle devient symbole de l'amant, puisqu'elle est masculine au départ.
Un unicorne.
Voilà, et qu'on a mal coupé. Unicorne, et donc licorne. Donc, c'est le début. C'est le début de l'attente amoureuse et de l'attente de la douce merci de la dame pour l'amant courtois. Donc, dans les bestiaires, c'est la fin. Et puis, dans la littérature courtoise, c'est le début d'une longue histoire, on peut supposer.
En couverture de La Dame à la Licorne et le Beau Chevalier, on retrouve ici évidemment la tapisserie de La Dame à la Licorne au musée de Cluny, parce que c'est cet univers-là, l'univers de l'amour courtois, et la licorne s'insère facilement dans cet univers-là, où est-elle elle-même le moteur de cet univers. J'ai l'impression que les deux vont de pair.
Alors, paradoxalement, cet animal virtuel, pourrait-on dire, est extrêmement incarné. Il est incarné par toute une tradition iconographique, mais c'est aussi cette chasse le moyen de parler de la sensibilité, des sens. C'est très frappant quand on regarde l'ontologie de voir que les différentes versions de la même chasse à la licorne vont dire que la dame, enfin la demoiselle, attire la licorne soit par son chant, soit par un miroir, soit par son odeur. Et ensuite, quand elle est là, eh bien, elle peut allaiter dans certaines versions. C'est-à-dire qu'il y a là, dans ces variantes autour du mythe, toute une réflexion sur les sens et sur la sensibilité. Et dans l'univers courtois, eh bien, leur affaire, c'est de comprendre comment utiliser la sensibilité, comment la maîtriser, comment la sublimer, hein, c'est ça, la fine amor, le raffinement de la sensibilité. Et là, la licorne est à nouveau métamorphosée dans son mythe.
Et ça devient un sujet d'iconographie d'ailleurs récurrent, cette chasse à la licorne qui prend des formes différentes, hein, on l'entend bien, mais ici qui à un moment donné de notre histoire XIIIe siècle et XIVe siècle touche à cette chose un peu impalpable qu'on appelle l'amour courtois, qui est souvent une projection d'une construction un peu plus tardive, mais qui correspond bien à quelque chose. Béatrice de Chancel, là, ce sont toutes ces licornes que nous connaissons bien sous forme de tapisserie.
Oui, alors on a deux grands cycles de tapisserie qui illustrent, qui représentent la licorne. La dame à la licorne du musée de Cluny, où la licorne a principalement un rôle héraldique en pendant du lion. Mais dans deux tapisseries, on a vraiment une interaction entre la femme et la licorne. C'est dans le toucher et dans la vue où la licorne semble se contempler dans un miroir. Et l'autre grande suite de tapisseries, c'est la chasse à la licorne qui se trouve conservée à New York au musée des cloîtres et qui est une suite peut-être un peu plus hétéroclite. Les deux ont leur mystère. Et où on a la chasse représentée un peu comme une chasse au cerf. Et dans la dernière tapisserie, la licorne défunte est portée rapportée au château. Et donc, ça n'est pas la même suite que dans les bestiaires ou dans les physiologus où la licorne est rapportée au roi, au palais du roi.
Oui, parce que ici nous avons quand même dans la tapisserie de la dame à la licorne, celle du musée de Cluny à Paris, quelque chose qui tient de la douceur. C'est pas une chasse aussi violente que celle que vous racontez qui se trouve au musée des cloîtres à New York. Hein.
Non, dans la tenture de la dame à la licorne, on a un univers très paisible, très étrange aussi, puisqu'on a ces mille fleurs sur fond rouge et puis. Ces groupes de personnages qui se tiennent sur une forme ovale, la fameuse île, avec la dame, sa demoiselle et le lion et la licorne, porteurs d'armoiries, d'oriflammes, de bannières, de targes.
Ah oui, puis ça évoque tout de suite des souvenirs, hein. Cette tapisserie si souvent reproduite quand nous la voyons, quand nous sommes sur place dans la salle du musée Cluny qui lui est consacrée, entourée de toutes ces tapisseries, on retrouve notre âme d'enfant.
Et alors la dame, là, qui est au milieu,
oui.
Sous la tente, qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains, en fait? Je sais pas, c'est des cailloux? Qu'est-ce que c'est qu'elle a
des
dans
bijoux.
Les... Ah, des bijoux.
Comme un trésor. La dame prend des petites... des choses, des boules.
Mm-hmm.
Et dans l'autre main, elle tient... Un oiseau qui ressemble à un perroquet,
ouais.
Une perruche, qui tient dans sa main. Puis il y a toujours les deux, le lion et la licorne qui tiennent à une comme un drapeau.
Une archive de 1979 sur France Culture. Ici, l'évocation par un enfant, la description de la tapisserie de la dame à la licorne au musée de Cluny. Nathalie Coble, c'est là aussi la fixation de notre image de la licorne à travers ces tapisseries. La licorne telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle vient de ce temps-là. Donc, toute cette évocation autour, on l'a dit, 13e, 14e siècle.
Oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est étonnant dans ces deux tentures qui sont monumentales et toutes les deux des chefs-d'œuvre, c'est justement que l'une... est d'une violence inouïe. La représentation est d'une très grande violence dans la tenture de New York, alors que l'autre a le pendant inverse, vous l'avez dit, hein, c'est une espèce de célébration de la douceur avec l'idée que la douceur médiévale, elle est dialectique. Hein. On n'est pas doux naturellement. Elle s'apprend, c'est toute une acquisition, c'est toute une éducation, aussi bien spirituelle que sensible. Et évidemment, le chef-d'œuvre qu'on a sous les yeux nous le déploie parce que on rentre, grâce à un certain nombre d'artifices d'ailleurs du peintre, dans chacune des tapisseries. Il y a un petit singe qui nous demande de regarder ce qu'il est en train de faire. Dans les tapisseries où il n'y a pas un objet comme le miroir ou l'instrument de musique et qui nous invite à interpréter et à rentrer dans une forme de méditation.
Moi, je cherche toujours ce que signifient tous ces petits lapins partout. Ouais. Je les adore, les petits lapins de la tapisserie de la Dame à la Licorne. C'est une série de tapisseries de tenture qui date du début du XVIe siècle. La Dame à la Licorne et le Beau Chevalier, cette œuvre que vous avez étudiée, Nathalie Coble, c'est du milieu du XIVe siècle, les années 1350 à peu près. Donc, c'est-à-dire que c'est bien avant. Est-ce que vous voyez quand même une évolution? Parce qu'on parle du Moyen-Âge et on réduit comme ça le temps. Or, ça fait quand même une vraie évolution entre 1350 et le début du XVIe siècle.
Vous voulez dire, est-ce que...
C'est la même licorne ou pas?
Non, pas tout à fait. Dans le roman, c'est une licorne à la fois emblématique et romanesque. Elle joue un rôle, elle sauve les amants et elle a un rôle symbolique très très fort puisque à la fin, elle leur permet de se réunir. Il n'y a pas un rôle narratif aussi fort dans la tenture, en tout cas celle du musée de Cluny. Même si c'est vrai que dans le toucher, dans la vue, elle rentre dans l'image. Donc ça n'est pas la même. Et puis vous savez, il y a cette idée-là que si c'est une licorne, c'est peut-être parce que la famille s'appelle le viste. Viste en ancien français et en moyen français, ça veut dire rapide, agile, subtil aussi.
Comme une licorne qui est rapide et agile. Oui.
Et aussi maligne, c'est-à-dire capable d'interpréter.
Oui, dans la tenture, elle a un rôle vraiment héraldique, et ça, on le rencontre aussi dès le XIVe siècle. On a une autre tapisserie qui est moins connue, qui est une tapisserie entièrement héraldique aux armes de la famille Beaufort-Comminges, où on a des lions, des licornes, mais aussi des éléphants et des cerfs qui sont emmantelés, donc qui portent des capes avec les armoiries de cette famille. Et là, c'est vraiment contemporain du roman de la Dame à la Licorne et du Beau Chevalier, puisque on suppose aussi que ces tapisseries ont été faites à l'occasion d'un mariage entre une Comminges et un monsieur de Beaufort.
Avec la licorne porteuse de mystère sur une série de tapisseries, elle-même porteuse de mystère, parce que c'est aussi une partie du succès de la célébrité de ces tapisseries, la Dame à la Licorne. Où en sommes-nous aujourd'hui pour l'identification, leur signification, leur appartenance?
Alors, quand elles ont été redécouvertes au château de Boussac, en particulier par Mérimée et Georges Sand, enfin bon, elles étaient un tout petit peu connues avant, on pensait que c'était des tapisseries, on en parlait de tapisseries orientales, et avec les croissants des armoiries, on les alliait avec un prince ottoman qui, effectivement, a séjourné à la fin du XVe siècle dans la région de la Marche, donc actuel département de la Creuse. Au moment de leur entrée au musée de Cluny en 1882, on a dit « mais non, cette histoire de tapisserie orientale ne tient pas » et on a identifié les armoiries comme celles des Levistes, donc une famille d'origine lyonnaise, mais qui comportait des grands officiers. Donc on est à l'époque où ce qu'on appelait des bourgeois prennent des charges anoblissantes au Parlement de Paris, à la Cour des Comptes. Et on a plusieurs membres de cette famille leviste qui sont des possibles commanditaires de la tapisserie, en particulier Aubert, Jean IV, qui est mort en 1500, et Antoine Leviste, qui est mort un peu plus tard. Et il y a plusieurs interprétations et tous les savants ne sont pas d'accord sur quel leviste a commandé la tapisserie. Et je pense que c'est difficile de trancher de façon vraiment péremptoire parce qu'on n'a pas d'archives, de documents qui le prouvent. On s'accorde sur l'auteur des cartons, des modèles plutôt, des petits modèles, qui serait Jean Dippre, un artiste actif à Paris et mort en 1508, donc on est avant. Et en revanche, on ne sait pas exactement où elles ont été tissées. Très souvent, on disait Pays-Bas méridionaux, Tournai, les grands centres de tapisserie. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à penser qu'elles ont pu être tissées à Paris, parce qu'à Paris aussi, il y avait des lissiers. Et de toute façon, la plus ancienne tapisserie médiévale connue, documentée, celle de l'Apocalypse d'Angers, a été tissée à Paris. Donc pourquoi pas Paris, mais pourquoi pas une ville du nord de la France ou actuelle Belgique. Là encore, enfin, il n'y a pas de certitude. Et ça renforce effectivement avec le côté énigmatique de l'iconographie. Voilà, on peut toujours gloser sur la dame à la licorne.
Alors, je préciserai que ces dernières années, des chercheurs et des chercheuses ont bien avancé dans les dossiers de la culture visuelle parisienne à la fin du 15e siècle. Il y a notamment un historien de l'art qui s'appelle Nicolas Auger, qui a soutenu il y a 2 ans une thèse sur Colin Damien, qui était un des très très grands peintres parisiens et qui était le fondateur rue Quincampoix de l'atelier de peinture dans lequel a probablement été en effet ont été dessinés les cartons, puisque j'en dis prêté un de ses 3 fils.
Non, petit-fils.
Non.
Il y a Colin Damien.
Non, le grand-père,
ah oui, c'est André Dippre.
Colin Damien, qui était qui a été un peintre actif pendant 50 ans à Paris, qui a repris l'atelier rue Quincampoix. Et puis, ce Colin Damien, qui était célébré de son temps partout, a eu 3 fils, dont un qui a migré probablement à Avignon et qui est un très grand peintre de l'école provençale. Et ce Jean Dippre, on a maintenant... Enfin, Jean Dippre ou son frère, hein, il avait un frère qui s'appelait Louis, à Paris, qui était aussi peintre. Il s'est adapté à la révolution technologique de la gravure. Il est aussi probablement là à la Rose de la Sainte-Chapelle. C'est un peintre polyvalent avec une main extrêmement raffinée.
On entend bien que l'enquête se poursuit, mais c'est ça aussi qui fait que nous avons tous et toutes une passion pour l'histoire. C'est que le regard que nous portons sur les œuvres, les identifications, c'est une aventure. Dans le cas du roman La Dame à la licorne et Le Beau Chevalier, donc cette œuvre du milieu du XIVe siècle, commandée ou sans doute destinée à Blanche de Navarre, ça on en est sûr, c'est pour Blanche de Navarre. C'est donc la reine de France parce qu'elle s'est mariée avec Philippe VI de Valois. Quant à l'auteur même...
Alors, on n'en sait rien du tout. Auteur anonyme qui connaissait bien ses classiques, si je puis dire, puisqu'il s'amuse avec beaucoup d'humour à reprendre Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, le roman de la Rose, la poésie lyrique de son temps. Il fait faire des ballades et des rondeaux à ses personnages qui dansent et qui chantent. Donc, c'est vraiment un livre multimédia.
Un livre multimédia, j'aime beaucoup l'expression, mais là aussi, et quant à sa diffusion, c'est un livre qui est destiné donc à une personne. On peut imaginer ici que la diffusion pourrait être restreinte. C'est quelque chose qui a pu être beaucoup diffusé à un moment où ça demeure encore
non, probablement
un peu confidentiel.
Pas. D'abord, ça a été fait pendant une année de la peste noire. Ainsi, elle s'est mariée avec Philippe VI, c'est parce qu'il venait de perdre de la peste sa femme. Et on ne sait pas très bien, le livre n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore, c'est très intéressant d'ailleurs, les mentions au crayon des directives de l'enlumineur sur chaque enluminure. En tout cas, c'est probablement une diffusion très restreinte puisqu'on n'en a qu'un seul manuscrit et qu'il était destiné à être, pour le coup, un cadeau de mariage donnant une éducation sentimentale courtoise à cette grande princesse.
Où est-il conservé ?
À la BNF.
À la Bibliothèque nationale de France à Paris.
Et en ce moment, à partir de mardi prochain, il sera visible dans l'exposition Licorne au musée de Cluny. Il est déjà dans sa vitrine.
Il est déjà dans sa vitrine. Ce roman, c'est celui de La Dame à la licorne et Le Beau Chevalier.
Il me faut à présent raconter en détail la douce vie que menait la dame, partie s'installer dans une contrée lointaine. Où qu'elle se rendit, tout le monde s'exclamait. C'est elle la fleur la plus noble des dames. À la servir, on ne peut pas être perdant. Une rumeur se répandait partout. Elle était si douce et si belle, en tout point si parfaite, que Jésus avait fait pour elle un miracle. Je vais vous le révéler. Il s'agissait d'une bête. Dieu la réserva pour elle. Par sa grâce, la bête avait une telle noblesse et une si grande pureté qu'elle avait en horreur tous les vices. et ne pouvait demeurer dans un espace impur. Le dieu d'amour fit ce don à la dame de sorte qu'elle fut surnommée la dame blanche qui la licorne garde. Le mal ne l'effleurait jamais, elle n'était que bonté incarnée. Son rang était considérable, elle était fille de roi.
Un extrait de La Dame à la licorne et le beau chevalier, lu par Anna Holweg dans le cours de l'histoire. Anna qui réalise cette émission avec à la technique Greg Corbin. Nathalie Coble, c'est vous qui avez traduit ce texte, au sens où ici, il y a quand même tout le travail de l'édition, de la contextualisation, et puis rendre accessible le texte même.
Oui, merci d'ailleurs, c'est une jolie surprise. C'est un texte qui est passionnant à la fois pour bien sûr son contexte politique, puisqu'au fond c'est une éducation courtoise, c'est une éducation à la douceur dans un contexte extrêmement noir et au fond pour accompagner une reine dans un mariage qu'elle n'a pas choisi. Donc là aussi, il y a une forme de violence et un paradoxe qu'il faut pas du tout occulter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce roman, je vous l'ai dit, maîtrise bien ses classiques et qu'il est constamment dans un second degré par rapport à ses lectures. Donc on a une sorte de bibliothèque de mémoire de la littérature courtoise, je dirais de l'âge d'or, c'est-à-dire 12e, 13e siècle, les grands romans. C'est un roman de lecteur, quel que soit l'auteur.
On entend bien ici que nous sommes passés avec La Licorne dans un autre registre que celui de la description naturaliste, oui. La recherche de l'animal, même si ça aussi c'est à prendre en compte pour saisir qui est La Licorne, ou en tout cas pourquoi elle a autant fasciné Béatrice de Chancel, parce que La Licorne a des vertus curatives très fortes. Et on l'entend bien ici, la pureté qui peut être évoquée à travers le roman, ça vient aussi de ce que l'on attribue à La Licorne comme vertu. Elle trempe sa corne dans l'eau et l'eau devient pure.
Oui, c'est ce qu'on raconte dès l'Antiquité. Et au XVe siècle, on sait que les princes, les grands, aimaient avoir un morceau de corne de licorne qu'on faisait toucher aux aliments ou qu'on trempait sans doute dans les aliments ou même on pouvait en râper un petit peu. Et on a énormément de textes qui racontent qu'on cherche une corne de licorne. J'ai perdu ma corne de licorne, je ne peux plus me soigner. Je l'ai prêtée à quelqu'un qui ne me l'a pas rendue. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de témoignages dans ce sens. Et on peut se demander aussi si certains récipients qui comportaient une image de licorne, même l'image ne pouvait pas avoir ces vertus curatives.
Déjà, l'image de la licorne aurait des vertus curatives. Et puis, la corne de licorne elle-même peut soigner. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que sur une des cornes, il y a écrit « Ne me râpez pas, ne me coupez pas, parce que sinon ça ne va pas ». Donc, juste la toucher, déjà, c'est pas mal. Parce
que c'est ça. Non, mais en fait, on disait que si on avait un aliment empoisonné, si la corne de licorne touche l'aliment, le poison va sortir. On dit aussi qu'on trempe une corne de licorne dans un liquide corrompu, empoisonné, et l'effervescence va la faire sortir les mauvaises substances. Et puis c'est l'histoire où le serpent est venu empoisonner la source. Ça, c'est dans l'Antiquité. Pendant la journée, le serpent est passé, il empoisonne la source. Le soir, la licorne vient tremper sa corne dans la source et hop, tous les animaux se réunissent. On a par exemple une très belle estampe dans l'exposition de Jean Duvet du XVIe siècle qui représente précisément le moment où la licorne trempe sa corne et tous les animaux viennent boire.
C'est beau.
Oui, je rajouterais que on regarde avec amusement ces rituels parce qu'on n'est plus du tout dans la même science, dans le même rapport au savoir. Mais il y a des témoignages aussi qui sont magnifiques. On parlait tout à l'heure d'Ambroise Paré avec Béatrice, qui raconte que sur le pont aux Sanges, donc au XVIe siècle, il y avait une dame qui vendait de l'eau de licorne dont on venait la voir pour pouvoir se guérir de tout un tas de maux. Et puis, une personne est venue la voir parce que son enfant était malade. Elle n'avait plus d'eau de licorne. Et donc, elle, pour ne pas décevoir sa cliente, elle lui a donné de l'eau pure, je dirais. Pas purifiée.
Pas purifiée, voilà.
Et l'enfant a guéri. Et là, bon, on a une forme d'invention du placebo, oui. Mais avec une efficacité qui est aussi liée au pouvoir de la croyance, dans certains cas.
Oui, parce que c'est ça, on y croit beaucoup, et c'est ça le plus important avec cette licorne, croire déjà oui. qu'elle existe, et c'est très important, et puis croire à ses pouvoirs magiques.
Oui.
Dans cette licorne-là, le besoin d'avoir des cornes de licorne nous conduit jusqu'aux mers du Nord.
Au nord du cercle polaire, s'étend la plus grande île du monde, le Groenland. À la mi-juillet, lorsque se brise l'étau des glaces qui enserrent les fjords, les narvals arrivent. Ici, ils vont donner naissance à leurs baleineaux, s'accoupler et constituer les réserves de graisse nécessaires pour affronter un long et dur hiver qu'ils passeront au large. Mammifère de la famille des odontocètes, en clair baleine à dents, la corne, que seul le mâle possède, est en fait une défense et n'a rien à voir avec la licorne de la légende, probablement inventée par des marchands scandinaves qui ne trouvaient pas désagréable, après tout, de vendre la corne en question 10 fois son poids en or. Au XVIIe siècle, au Danemark, on fabriquait à partir des soi-disant cornes de licorne de délicates sculptures rehaussées d'or et d'argent, comme ce fameux trône dit de la licorne, inspiré de celui du roi Salomon, que fit réaliser le roi Frédéric III en 1660.
En 1988, les narvals, donc ces animaux marins, mais qui, eux, existent bien avec ce qu'on appelait la corne, qui est devenue cette corne transcendée, la corne de la licorne. Béatrice de Chancel, à quel moment la licorne est mise en doute? Au sens où on dit, tiens, il y a quand même des animaux qui ont une corne qui ressemble beaucoup à ce qu'on attribue à une licorne.
Alors très tôt en fait, parce que dès le XIIIe siècle, on a dans le De Natura Rerum de Thomas de Cantimpré, on a la licorne de mer qui est représentée, mais aussi la licorne terrestre. Et au XVIe siècle, on voit des savants, des médecins comme Conrad Gessner dire « la licorne, on la connaît surtout en peinture, on connaît aussi sa corne, mais peut-être que la licorne existe quelque part, mais on n'en est pas sûr. » On commence à en douter. Et quelqu'un comme Rabelais aussi tourne plutôt la licorne en dérision, c'est-à-dire que il dit que Pantagruel va sur une île, Médamoti, l'île de nulle part, et il en rapporte une vie d'Achille une tapisserie de la vie d'Achille en 78 pièces, qui est totalement impossible. Enfin bon, les plus grandes tentures, elles ont 8 ou 10 pièces, mais pas 70. Et il rapporte aussi 2 licornes.
Voilà, donc ça y est, on commence à se dire que la licorne, en tout cas sa corne, c'est peut-être celle du narval. C'est assez de dire que c'est un animal fantastique. La licorne prend un autre statut dès lors et elle est riche de symboles. Et on sait jusqu'à aujourd'hui la pluralité des symboles associés à la licorne, et notamment un symbole féministe. Alors, on est parti d'un symbole christique et nous voyons ces évolutions complexes qui nous conduisent aujourd'hui à d'autres lectures de la licorne, Nathalie Coble.
Oui, alors la licorne aujourd'hui, elle est encore très active dans la littérature. Et d'ailleurs, le fait que sa virtualité n'est pas un défaut, hein, être une fiction, c'est évidemment mettre au jour la puissance du possible, la puissance du virtuel, la puissance de la fiction. Et ses capacités d'ouverture. Hein. La licorne, on a entendu un petit morceau du sonnet de Rilke tout à l'heure, hein. La licorne n'existe presque pas, l'animal qui n'existe que presque pas. On peut aussi penser à Audrey Lorde, grande poétesse noire américaine, féministe, qui a écrit un livre qui s'appelle The Black Unicorn, la licorne noire, qui a été traduit récemment chez L'Arche, où le livre et le premier poème s'appellent « The Black Unicorn » et où elle retourne dans une perspective féministe le symbole de la licorne en emblème de la négritude, de la sienne et de sa colère.
C'est Audre Lorde, hein, la licorne noire, oui. C'est ce poème recueil ici oui. autour de la oui. figure de la licorne noire. Donc licorne, ça devient une sorte de manifeste. Vous avez cité Rilke parce que le poète ici se saisit de la licorne pour en faire presque la synthèse de tout ce que nous avons dit.
Absolument.
Comme une forme de retour sur ce que symbolise cette créature fantastique.
« Oh, voici l'animal qui n'existe pas. » Il ne le savait pas et pourtant l'ont aimé, dans sa démarche, son maintien, son encolure, jusque dans la lumière de son calme regard. Certes, il n'existait pas, mais parce qu'il l'aimait, un animal pur naquit. Il laissait toujours de l'espace et dans cet espace clair et épargné, il leva légèrement la tête et eut à peine besoin d'être. Ils ne le nourrirent d'aucun grain, mais uniquement de la possibilité d'être. Et c'est elle qui donna une telle force à l'animal qu'il fit jaillir de son front une corne, une seule corne. D'une vierge, il s'approcha tout blanc et fut dans le miroir d'argent et fut en elle.
C'est Robert Sabatier, l'écrivain, le poète, qui lisait ici le poème de Rilke sur la licorne. Béatrice de Chancel, c'est vraiment cela aussi, la licorne. C'est comment elle est utilisée par la suite, cette créature fantastique qui, à la fois, est porteuse de plein d'imaginaires, permet là aussi de porter d'autres imaginaires. On l'a entendu, des imaginaires féministes, des imaginaires d'identité forte ou tout simplement de la publicité aussi.
Oui, alors dans l'exposition, nous avons deux affiches publicitaires. Une pour une marque de voiture française qui a existé entre 1907, 1909 et 1949. Donc des voitures qui mettent en valeur la rapidité de la licorne. Et également les messageries maritimes, donc une compagnie de transport qui a pris pour emblème la licorne. Et il y a tout un ensemble d'objets liés aux messageries maritimes qui représentent la licorne. Et dans l'exposition, on a une très belle affiche avec une licorne grise, mais dont la crinière est tricolore.
Ah bah voilà, évidemment.
Il y a une bière aussi.
Il y a la bière La Licorne, alors ça c'est lié, il y a deux bières licornes, il y a celle de Saverne, parce que la ville de Saverne a la licorne dans ses armoiries, de même que la ville de Saint-Lô, et donc la bière brassée à Saverne, c'est la bière La Licorne, et au Japon il y a aussi une bière Kirin, et Kirin c'est Chilin, c'est la licorne en japonais.
À consommer.
Chilin en chinois et Kirin.
À consommer avec modération, évidemment. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de vos ouvrages, qu'on peut consommer, mais alors là, vraiment sans modération, parce que c'est un plaisir de découvrir que les licornes existent de manière concrète, puisqu'elles sont là, en représentation, en peinture et dans la littérature. L'exposition Licorne, c'est au musée de Cluny à Paris. Puis l'énorme catalogue Licorne, parce que là, on en croise des licornes, et Licorne sur les traces d'un mythe.
Alors, je voudrais juste ajouter que Licorne vient de l'exposition aussi de Potsdam, du Muséum Barberini, et que le catalogue a été conçu avec Michael Philippe.
C'est très bien de le citer. Et La Dame à la Licorne et Le Beau Chevalier, c'est ce roman du milieu du XIVe siècle que vous accompagnez, Nathalie Coble. Merci en tout cas à toutes
Merci
les deux
beaucoup.
D'être venues nous présenter Les Licornes, la série du cours de l'histoire sur les créatures fantastiques avec des théranthropes, des dragons, des sirènes et des licornes, est évidemment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dernier mot laissé à Michel Pastoureau, formidable historien, qui quand même rend hommage à ces créatures fantastiques oubliées.
La licorne, le griffon, le dragon, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Le crocote, caladre et d'autres noms, nycticorax, des noms un peu difficiles à prononcer. La manticore, par exemple, a complètement disparu de notre imaginaire. Seules quelques vedettes ont survécu et valent pour tous les autres. Comme la licorne qui passe pour avoir des vertus merveilleuses, notamment des vertus purificatrices.
Et ben voilà, elle est purificatrice, la licorne, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Tom Hundenstock, Raphaël Laloum, Jeanne Coppès, Denis Lebeau et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.